Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois en Cornouailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles. Et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouaille bretonne. Alors cette semaine prudence, nous allons nous rendre dans la Cornouaille des sorcières et des sorciers. Une émission consacrée à la sorcellerie donc. Ensuite, comme d'habitude, dans une seconde partie, je raconterai une histoire improvisée grâce aux éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés à notre association via notre page Facebook. La sorcellerie en Cornouaille bretonne résulte principalement de la dégénérescence des pratiques religieuses païennes. Contrairement aux autres régions de France, il n'y a pas eu de grande chasse aux sorcières en Bretagne, les habitants ayant conservé une certaine proximité avec l'ancienne religion à travers la pratique d'un catholicisme particulier et très empreint de superstition jusqu'à la reprise en main jésuite à l'occasion de la contre-réforme des XVIIe et XVIIIe siècles. Les sorciers et sorcières existent encore aujourd'hui en Cornouaille, même s'ils se font de plus en plus rares et de plus en plus discrets. Pour ne pas les gêner dans leur pratique, nous nous contenterons donc, dans nos émissions consacrées à la sorcellerie par chez nous, de n'évoquer que les pratiques et les mythes les plus répandus. Ainsi en va-t-il du bac sorcérèse ou bateau des sorcières. Dans la baie d'Audierne et surtout aux abords de l'île de Saint, on voit la nuit des bateaux montés par une seule femme. Ce sont les bagous sorcéraises, les bateaux des sorcières. Ils sont conduits par certaines veuves de l'île de Saint qui ont le mauvais œil. Malheur à qui à bord d'un bagou sorcéraise. La sorcière confie au patron un secret terrible. S'il le dévoile, lui et son équipage seront engloutis la première fois qu'ils prendront la mer. Si même l'un des hommes dit avoir rencontré le bagou sorcéraise, il périra dans la semaine. Au commencement de 1890, un marin d'élite qui avait vu le bateau des sorcières eut l'impudence d'en parler une fois arrivé à terre. Le lendemain, en allant à Brest, il tomba par-dessus bord. Il fut repêché aussitôt, mais il était mort. Souvent, le matin, on a vu Catouche, la plus redoutée de ses veuves de l'île de Saint, revenir de la chaussée, toute trempée, avec son panier à goémons vide. Qu'avait-elle bien pu faire la nuit dehors, sinon courir la mer? Elle change son panier en barque, son bâton à retenir le varech en mât et son tablier en voile. D'autres veuves de l'île de Saint qui ont reçu en naissant le don de vouer auraient une puissance encore plus redoutable. Elles se rendent la nuit au sabbat de la mer sur une embarcation de forme spéciale qui n'est autre, là aussi, que le panier à goémons. Elles s'y accroupissent sur leurs talons et leur bâton à goémons leur sert d'aviron et de gouvernail. Elles se chargent de vouer à la mort, dans un certain délai, l'ennemi qui leur a été désigné, à moins qu'il n'ait auparavant réparé le dommage qu'il a fait. La sorcière doit accomplir 3 voyages, assister à 3 sabbats et remettre chaque fois au démon du vent et de la mer un objet ayant appartenu à l'homme qu'il s'agit de faire disparaître. Ainsi sévit longtemps à l'île de Saint cette femme maudite que j'ai déjà mentionnée qui s'appelait Catouche. Au XIIIe siècle, une femme du Cap Sizun, à terre cette fois, vit entrer dans sa maison, dont toutes les portes étaient closes, une sorcière vampire à laquelle un loup servait de monture. Elle put l'asperger d'eau bénite, la faisant s'enfuir en fracassant la porte d'entrée. Les sorciers et sorcières travaillaient souvent avec un animal familier, généralement un chat noir. Pour ceux qui voulaient en obtenir un, il fallait, en Cornouailles, particulièrement dans le Cap Sizun ou aux environs de Gourin, qu'à minuit on se rende à un carrefour. On y rencontrait alors un chat noir. C'était le diable qui avait pris cette forme pour garder l'un de ses nombreux trésors. Pour obtenir ce chat noir, il fallait se vendre à lui et passer un contrat signé avec le petit doigt de la main gauche. On lui appartenait alors, au diable, après sa mort. Toutefois, il était possible de lui échapper. Ses marchés avec le diable étaient inscrits sur son cahier, mais il n'avait pas un droit incontestable, à part à chaque 9e inscription. Pour lui enlever son argent sans risquer la damnation, il fallait se munir d'une fourche de caudrier, de la pousse de l'année, d'une poule blanche sans tache et de l'herbe d'or. Au carrefour, on lâchait la poule, le chat noir courait après, la poule se sauvait et l'herbe d'or montrait où se trouvait le trésor. Il n'y avait plus alors qu'à le déterrer avec la fourche. Sur la presqu'île de Crozon, ceux qui possédaient grimoires de sorcellerie pouvaient, paraissait-il, voler en taillant deux grosses baguettes de houx. Il suffisait de les poser croisées par terre, puis de s'asseoir dessus en tailleur, en coinçant les baguettes entre ses jambes, et de dire une formule magique apprise dans le grimoire. Parmi ces sorcières de Crozon, la vieille Jeanne était une femme à la réputation plus que douteuse. On disait d'elle qu'elle faisait commerce avec le diable pour jeter des sorts à qui l'importunait. Son trépas a laissé un relent de soufre. Les voisines les plus proches se préparaient, selon la coutume, à faire sa toilette mortuaire en faisant bien attention à ne pas déranger le grand chien noir avec lequel elle vivait et qui était couché au pied de son lit. Soudain, un autre grand chien noir entra dans la pièce. Les deux bêtes attrapèrent le cadavre chacune par un bras, puis l'emportèrent avec elles. On ne revit jamais la vieille Jeanne et l'on suppose que, comme à son habitude, le diable était venu emporter sa servante avant que le prêtre ne puisse venir faire son office. Il arrivait même parfois que des duels de sorcellerie se produisent. Il ne s'agissait pas alors de remuer sa baguette dans tous les sens comme dans Harry Potter. Un jour, qu'un jeune couvreur de peine 13 rencontrait un monsieur à la belle chemise brodée qui ne daigna pas répondre à son salut, il lui jeta un sort qui bloqua son attelage 100 mètres plus loin. Entendant le couvreur rire de son bon tour, le monsieur se leva calmement, prit son fouet par le petit bout, marmonna quelques paroles incompréhensibles et se mit à frapper du manche le postérieur de sa jument. La bête ne sentit rien, contrairement au couvreur qui arriva, lui, à sa maison, perclus de douleur. Les mendiants et les marginaux étaient connus en Cornouailles comme jeteurs de sorts. On les appelait parfois clasterbara, les chercheurs de pain. Le fermier se devait de les accueillir et d'offrir ce qu'ils réclamaient sous peine de voir ses champs et ses bêtes souffrir sous l'effet de leur malédiction. On appelait ça Gwenec Androcavis, le sou du mauvais œil. On s'en protégeait en jetant une poignée de sel par terre après leur passage afin de contrecarrer leur sort. Lorsqu'ils s'en apercevaient, certains ne manquaient pas d'humour et conseillaient malicieusement de plutôt garder le sel pour la soupe. Il en allait de même pour les gens du voyage, toujours soupçonnés de sorcellerie. Un jeune homme de Telgruc, qui décédera en 1919, s'était proposé pour accompagner une gitane jusqu'à son campement. Mal lui en a pris car le père, voyant arriver sa fille avec un garçon, prêta à ce dernier de mauvaises intentions et lui jeta un sort. Pendant un mois entier, le garçon se réveilla en sursaut avec l'impression que son lit clos se repliait sur lui et l'écrasait. Le sort cessa lorsqu'il alla se confesser. Certaines conditions de naissance pouvaient également prédisposer à certains pouvoirs magiques. Autrefois, au Cap Sizun, on se méfiait des enfants dont la mère était morte en couche ou de ceux qui séjournaient sous le porche d'une église sans avoir reçu le baptême. Remettre les enfants au sein quand ils avaient été sevrés, en cas de famine par exemple, les prédisposait également à jeter des sorts. En Cornouailles, la sorcellerie était même pratiquée par des prêtres. Un prêtre sorcier vint un jour voir son évêque à Quimper car ce dernier lui avait interdit de pratiquer son art. Lorsqu'il sortit du bureau épiscopal, il était accompagné par un grand chien roux qu'il n'avait pas en rentrant dans la pièce et l'évêque avait disparu. Le prêtre confia l'animal au domestique de l'évêque en lui disant de le proposer à tous les prêtres du canton et de lui ramener si personne n'en voulait. Aucun prêtre n'ayant consenti à prendre le chien, le domestique de l'évêque le ramena au curé. Ce dernier lui ordonna alors de creuser une fosse et d'y faire entrer le chien à reculons, puis de s'enfuir au plus vite. L'homme obéit et quand il fut éloigné du trou, quelle ne fut pas sa surprise de voir l'évêque sortir de la fosse. Avant la Révolution, un autre prêtre, l'abbé Le Monze, lui, vivait en paix à Quérédan près de Telgruc sur la presqu'île de Crozon. Cet abbé avait un frère très étrange, un cultivateur instruit qui pratiquait la magie avec excellence, mais uniquement la magie blanche. Il se contentait de tours sans conséquence et ne jetait jamais de sorts, se gardant bien d'invoquer les démons. Un jour que son voisin mettait en doute ses pouvoirs, il l'emmena avec lui dans les airs à califourchon sur un bâton jusqu'à Locronan, où le voisin se blessa le pied après avoir heurté le sommet du clocher de l'église. Lorsque vint la Révolution, les Bleus vinrent un jour pour arrêter l'abbé Lemonze. Quelle ne fut pas leur stupéfaction lorsque des tas de bois sur le bas-côté se mirent à s'animer, chaque bûche et bâton venant les rosser et battre comme plâtre. On ne sut jamais de qui cela vint, mais tout le monde, l'abbé en premier, remercia chaleureusement son frère. Là où dansaient les sorciers poussaient des champignons appelés trônes de crapaud ou escaliers de crapaud dans les champs. Parfois, le cercle n'était formé que par l'herbe foulée ou grillée, mais dans tous les cas, on ne laissait pas le bétail brouter dans les parages de telles manifestations. Autrefois, les prêtres devaient exorciser ces morts diaboliques qu'étaient les sorciers, mais sans le faire savoir au public. Toutefois, des détails n'échappaient pas aux observateurs attentifs. Celui qui pratiquait la sorcellerie devait se confesser lors de la visite du prêtre avant de mourir. S'il était pardonné, le prêtre sortait du cimetière avec le doigt dans une feuille de son livre, car il devait faire une prière spéciale pour ça. Lorsqu'un sorcier devait lancer un sort, il lui fallait un Agrippa, un Vif ou un Aigremont. Ainsi nommait-on les grimoires de sorcellerie suivant les coins de Cornouailles où l'on habitait. Pour défaire ce sort, il fallait le lire en commençant par la fin et en prononçant tous les mots à l'envers. À la moindre hésitation ou erreur, il y avait un choc en retour et il fallait tout recommencer. L'Agrippa, appelons-le ainsi par commodité, était un livre énorme. Placé debout, il avait la hauteur d'un homme. Les feuilles en étaient rouges, les caractères d'écriture en étaient noirs. Tant qu'on n'avait pas à le consulter, on devait le maintenir fermé à l'aide d'un gros cadenas. C'était un livre dangereux, aussi ne fallait-il pas le laisser à portée de la main. On le suspendait au moyen d'une chaîne à la plus forte poutre d'une pièce qui était réservée à cet usage. Il était nécessaire que cette poutre ne soit pas droite, mais tordue. Le nom de ce livre, ce grimoire de sorcellerie, variait donc avec les pays où l'on se trouvait. En Trégor, il s'appelait Agrippa, dans la région de Châteaulin, Aigremont. Aux alentours de Quimper, on l'appelait le Vif. Ce livre était vivant. Il répugnait à se laisser consulter, il fallait être plus fort que lui pour lui arracher ses secrets. Tant qu'on ne l'avait pas dompté, on n'y voyait que du rouge. Les caractères noirs ne se montraient que lorsqu'on les y avait contraints, en rossant le livre comme un cheval rétif. On était obligé de se battre avec lui et la lutte durait parfois des heures entières. On en sortait baigné de sueur. À l'origine, il n'y avait que les prêtres à posséder des agrippas. Chacun d'eux avait le sien. Le lendemain de leur ordination, ils le trouvaient à leur réveil sur leur table de nuit, sans savoir d'où est-ce que cela leur venait et qui le leur avait apporté. Pendant la Grande Révolution, beaucoup d'ecclésiastiques émigrèrent. Quelques-uns de leurs agrippas tombèrent entre les mains de simples clercs qui, durant leur passage à l'école, avaient appris l'art de s'en servir. Au moins, l'art de le lire. Ceux-ci les transmirent à leurs descendants. Ainsi s'explique la présence dans certaines fermes du livre étrange. Il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour savoir quand un homme qui n'est pas du métier possédait un agrippa. L'homme qui possède un agrippa sent une odeur particulière. Il sent le soufre et la fumée parce qu'il a commercé avec les diables. C'est pourquoi on s'écartait de lui. Puis il ne marchait pas comme tout le monde, il hésitait dans chaque pas qu'il faisait, de crainte de piétiner une âme. Les ignorants, qui se mêlaient de lire dans l'Agrippa, dans l'Aigremont ou dans le Vif, suivant où on se trouvait, s'étaient durement châtiés de leur imprudence. Le curé de Plugufan entra un jour dans la sacristie, pensant y trouver le bedeau dont il avait besoin. Mais la sacristie était vide. « Oh, il ne doit cependant pas être loin, » se dit le curé, « car voici ses sabots. » Il appela. « Jean, Jean !» Pas de réponse. Il allait sortir, impatienté, quand il aperçut son grimoire tout grand ouvert sur la table à la page où sont inscrits les noms des démons. « Ah, je comprends, » s'écria-t-il. « Jean aura invoqué les diables et n'aura pas su les congédier. Ils l'ont emporté avec lui en enfer. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. » Très vite, il se mit à débiter la kyrielle des noms en commençant par la fin. Des démons qui avaient été invoqués. Aussitôt, le bedeau reparut. Il était déjà tout noir, tout roussi. Sur son crâne, ses cheveux avaient brûlé. Il fut longtemps sans recouvrer l'usage de la parole, tant sa terreur avait été immense. Quant à ce qu'il avait vu dans son voyage, il ne s'en ouvrit jamais à personne, pas même à sa femme. Voilà pourquoi, chaque fois qu'ils apprenaient l'existence d'un tel livre lors d'un désenvoûtement, les curés le confisquaient. Comme je l'ai déjà mentionné, lire à un Agrippa, un vif ou un Aigremont pouvait se révéler dangereux pour le lecteur. Une femme de Dirinon raconte comment quelqu'un, en lisant son livre, a amené des corbeaux dans sa chambre. Il était envahi et ne pouvait plus s'en défaire alors qu'il croyait les mettre chez quelqu'un d'autre. Il avait mal lu son livre. La famille en possédait plusieurs exemplaires dont elle ne pouvait plus se défaire. Les livres les influençaient, les poussaient et ils agissaient malgré eux contre leurs contemporains. Il pouvait même arriver que le diable apparaisse à un novice qui lisait le livre sans y avoir été préparé. Le novice se retrouvait alors possédé. Les sortilèges étaient nombreux, mais le sortilège le plus connu en Cornouailles était le vol de beurre. Tel sorcier avec ses trois vaches faisait plus de beurre que son voisin qui en avait 10, par exemple. Ce dernier avait beau passer ses journées à battre son lait, il n'en tirait que peu de beurre. On reconnaissait un voleur de beurre au chapelet couleur de beurre qu'il portait autour de son cou. De plus, le comportement de nombreux animaux nuisibles était censé pouvoir être maîtrisé par les hommes désignés sous le terme de sorciers. Il arrivait même que ces derniers puissent se métamorphoser en la bête elle-même. Les voleurs de beurre avaient ainsi la capacité de se transformer en lièvre pour échapper à leurs poursuivants éventuels. Ils pouvaient également se transformer en serpent pour venir téter les mamelles des vaches et voler le lait. Les curés avaient aussi ce pouvoir de transformation, mais souvent en chat ou chien noir pour faire renoncer leurs paroissiens à de mauvaises pratiques. Certains sorciers avaient aussi la réputation de communiquer avec les morts. Les Anaons avaient le pouvoir de décider de l'avenir de la production d'une ferme. De son côté, un propriétaire de vaches pouvait aussi, en déposant une offrande en l'honneur des âmes du purgatoire, constituer ces dernières juges de son différend avec le sorcier. La condamnation de ce dernier se manifestait par le fait que les vaches de la ferme produisaient de nouveau du lait comme avant. Si un diagnostic de sorcellerie a été posé, le désenvoûtement intervient. Un discompteur ou désenvoûteur procède alors en trois étapes, la purification, la protection et le renvoi du sort à son envoyeur. La purification était souvent de simples gestes hygiéniques comme le nettoyage d'une écurie ou d'une étable. Lorsque cela s'avérait insuffisant, on faisait également intervenir le feu et la fumée. Pour la protection, on aspergeait de sel marin ou d'eau bénite. Le renvoi du sort consistait à recueillir des poils de l'animal envoûté, puis à les remettre à celui qui était supposé avoir lancé le sort. Le discompteur, portant un vêtement à l'envers, lisait ensuite le sort responsable de la malédiction à l'envers, ce qui l'annulait et provoquait un choc en retour vers celui qui l'avait envoyé. Si on ne connaissait pas le responsable du sort, il fallait enterrer un animal victime du sort, les pattes en l'air, devant l'entrée de l'écurie ou de l'étable. En cas d'échec, il fallait piquer le cœur d'un animal semblable à celui qui avait été envoûté avec des clous, ou en enfoncer un là où l'animal ensorcelé avait uriné. Le cœur avait été préalablement cuit avec du sel ou fumé dans une cheminée pour être purifié. Il existait également des mesures préventives contre le mauvais sort. Une pierre blanche incrustée dans un mur de maison en protège les habitants si elle est dans les fondations, au-dessus d'une porte ou d'une entrée, d'une fenêtre ou dans un angle. À l'intérieur, comme dans d'autres régions françaises, un rameau de buis béni lors de la messe des rameaux est également efficace. Savez-vous, pour terminer cette première partie d'émission, que c'est la sorcellerie qui est à l'origine du beurre salé en Bretagne ? On mettait en effet du sel dans les barattes à beurre pour se protéger des sorciers et des voleurs de beurre. Il a été constaté par la suite que le beurre salé se conservait plus longtemps que le beurre normal. C'était une pratique répandue dans toute la France. Lorsque l'impôt sur le sel, la gabelle, fut instauré, la Bretagne fut épargnée. C'est pour cela que la coutume continua de saler le beurre en Bretagne et pas ailleurs.
Lights the sky.
Merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a été créée à partir des éléments envoyés par Hélène sur notre page Facebook. Et ces éléments étaient un sorcier, évidemment, la forêt du Helgoat, un sanglier d'or, un chasseur et le marchand de sable. Adèle était une petite fille qui n'avait plus ni père ni mère et de ce fait vivait chez une tante qui ne l'aimait pas beaucoup et la considérait plus comme une servante que comme une nièce. Chaque jour, elle était envoyée en lisière de la forêt de Helgoat où elle devait ramasser glands pour les cochons et branches pour en faire des fagots. Elle avait peur car cette forêt passait pour être enchantée et recélée de terribles secrets plus vieux que le monde lui-même. Toutefois, inutile pour elle de rentrer si elle n'avait pas son quota sous peine de recevoir le fouet. L'existence n'était donc pas rose pour Adèle, mais elle en prenait son parti et se montrait d'une gentillesse sans borne avec toutes les créatures qu'elle rencontrait. Voilà sans doute pourquoi, un jour, lorsqu'elle vit sortir de la forêt un sanglier qui alla se cacher dans un buisson tout proche parce que poursuivi par une meute de chiens, elle alla se placer elle-même devant le dit buisson pour protéger l'animal. La meute arriva et l'encercla. Les molosses qui la composaient se montraient menaçants et l'auraient sans doute attaqué si le chasseur arrivant à cheval ne les en avait pas empêchés. « As-tu vu passer un sanglier, petite ?» demanda l'homme à Adèle. « Je le poursuis depuis ce matin. »« Non, messire, je n'ai rien vu de tel, » répondit la jeune fille en tremblant. « Es-tu sûr ? Mes chiens semblent renifler son odeur vers toi. »«
Ah, c'est que je nourris les porcs de ma tante chaque soir avec les glands que je ramasse. Ce sont eux qu'ils doivent sentir. »
Le chasseur l'observa un instant, puis rameuta ses chiens et repartit sans insister. Quand il se sentit hors de danger, le sanglier sortit de sa cachette. « Merci, » dit-il à Adèle.
« Mais tu parles ?»
Le sanglier se recouvrit d'or sous les yeux ébahis de la petite orpheline.
« Oui, je parle. Je ne suis pas vraiment un sanglier, mais l'ancien dieu du sommeil coincé sous cette forme par la nouvelle religion. Tu viens de me sauver la vie. Que puis-je faire pour toi ?»
Adèle soupira.
« Oh, ma vie n'est pas bien rose, » dit-elle. « Je n'ai plus mes parents et je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour moi. »«
Eh bien, je pourrais commencer par te révéler que certes, tu n'as plus ta mère, mais que ton père vit encore. »«
Mais quoi ? Comment le savez-vous et pourquoi m'a-t-il laissé alors ?»«
Il n'a pas pu faire autrement. C'était un chevalier qui vivait dans le château là-bas sur la colline. »«
Celui du sorcier ?»«
Exactement, celui du sorcier. » Il l'a pris à ton père après l'avoir transformé en serpent blanc qu'il garde prisonnier à ses côtés dans une cage de verre. Ta mère en est morte de chagrin.
Alors voilà ce que vous pouvez faire pour moi, je veux aller le délivrer.
Oh, ce ne sera pas facile, un géant garde l'entrée du château.
Mais je croyais que vous étiez un ancien dieu.
Eh oui, comme tu le dis, un ancien dieu. Mes pouvoirs ne sont plus ce qu'ils étaient depuis que les gens ne croient plus en moi. Mais je connais quelqu'un qui pourra quand même t'aider.
À ces mots, le sanglier d'or tapa cette fois sur le sol. La terre s'ouvrit et un homme en sortit avec un grand sac sur l'épaule.
« Adèle, voici le marchand de sable, mon premier serviteur qui est resté à mes côtés. Le sable qu'il a dans son grand sac vient des plages du pays des rêves, mon royaume, et il peut endormir n'importe quelle créature. Sablier, tu vas rester avec cette petite fille et l'aider jusqu'à ce qu'elle ait délivré son père de la malédiction qui le frappe. »
L'homme au sac ne répondit rien, mais baissa la tête pour acquiescer. Puis le sanglier d'or disparut. Adèle se rendit au château sur la colline. La forteresse n'était pas accueillante, avec ses murs gris couverts de ronces et ses nuées de corbeaux croissant de manière sinistre en volant autour du donjon. Lorsqu'elle arriva au pied du château, un géant avec une énorme massue vint à sa rencontre et leva son arme pour l'écraser. Le marchand de sable prit une poignée de sable dans son sac qu'il souffla sur le géant, et celui-ci s'écroula pour dormir dans l'instant. Une fois à l'intérieur, quelques gardes tentèrent bien d'empêcher Adèle et le marchand de sable d'avancer, mais tous s'endormirent de la même manière que le géant. Ils arrivèrent vite à la salle du trône, mais le sorcier n'y était pas. Alors Adèle repéra la cage en verre où se trouvait un serpent blanc, sortit le reptile et l'emporta. Elle allait partir lorsqu'elle se retrouva face à face avec le sorcier qui venait de rentrer. Furieux, ce dernier fit de grands gestes pour préparer un sort, alors Adèle lui lança le serpent blanc au visage. Le reptile s'enroula autour du cou du sorcier et le serra. Le magicien tenta vainement de desserrer son étreinte, mais sans succès. Il mourut étouffé et la malédiction fut brisée.
Le chevalier retrouva forme humaine et embrassa sa fille qu'il reconnut immédiatement tant elle ressemblait à sa mère. Adèle pleura de joie tandis que le marchand de sable disparaissait, sa tâche accomplie. La petite fille n'était plus orpheline, son père le chevalier devint roi, et elle, une princesse qui ne fut plus jamais triste et beaucoup plus tard se maria avec un gentil prince d'un royaume voisin. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui qui sentait le fagot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une fois en Cornouailles. 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.